Radio Capi, grand témoin. Diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique pendant plusieurs années, Thomas Mambo Elanga est celui que grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Monsieur Thomas Mambo, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique pendant plusieurs années, mais aujourd'hui vous n'êtes plus en fonction. Vous attendez votre rapatriement en RDC. Avec vous dans cet entretien, nous parlerons de vous, de votre long parcours de diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique. Vous nous direz comment vous vous êtes retrouvé comme diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique. Mais on va évoquer aussi ces difficultés que rencontrent les diplomates congolais qui se trouvent à l'étranger. Vous avez même créé une association de diplomates abandonnés à l'étranger. On va en parler dans cette émission, mais on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Banadia, province orientale, 1940.
Et c'est là où vous avez grandi?
Oui, j'ai commencé au village, j'ai grandi 5 ans. Après, je suis allé pour commencer les études à Kisangani, puisque au village, il n'y avait pas d'école.
Et vous êtes parti seul? Vous avez laissé les parents à Banadia pour aller commencer votre école primaire à Kisangani?
Non, les parents étaient fonctionnaires à Punia. Mais ils nous ont envoyé avec maman à Kisangani pour commencer les études.
L'école primaire jusqu'à secondaire à Kisangani ou bien vous avez changé de milieu?
Oui, j'ai commencé à Kisangani. Après l'école secondaire, j'ai continué à Bouta chez les frères maristes. Et donc, j'étais aussi frère. Et puis après, j'ai continué au Rwanda 2 ans. Et puis à Bukavu, j'ai terminé mes humanités. À Nyangezi, près de Bukavu.
Pourquoi vous avez quitté Bouta pour aller au Rwanda?
Non, puisque comme je vous ai dit que j'étais candidat à être frère mariste, alors notre maison de formation était à Bouta, au Rwanda et à Bukavu. C'est pourquoi j'ai fait ce parcours-là.
Frère mariste, oui, mais qu'est-ce qui vous a détourné de ce chemin-là?
C'est le fait, avec le changement, l'indépendance, comme il y avait toujours discrimination au sein de l'organisation, il s'est fait que, à 60, beaucoup de nos compatriotes n'ont dû quitter, étant donné la discrimination qu'il y avait au sein de l'organisation des frères maristes.
Quel genre de discrimination? Raciale, ethnique?
Pas surtout, pas tellement raciale, c'était surtout question d'études, puisque les frères maristes, surtout en Europe et ici, c'était de frères qui s'occupaient des écoles primaires et des humanités. Alors, ils n'étaient pas formés pour diriger en principe aussi des humanités. Et ce qui fait que beaucoup des anciens n'avaient pas formation. Et normalement, ils devaient pousser les jeunes à étudier, aller à l'université. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai quitté, je suis allé directement à l'Ovanium commencer mes études.
Vous avez fait quelles études aux humanités?
J'ai fait humanité scientifique B. Alors après, à l'Ovanium, j'ai fait la prélu. Ensuite, j'ai fait les gradués à sciences sociales et après j'ai continué en Europe.
Vous avez continué vos études post-universitaires en Europe?
Oui, oui.
Envoyé par les parents ou bien vous avez obtenu une bourse?
J'ai obtenu une bourse puisque à l'Ovanium, je voulais faire le diplôme d'administration des entreprises qui n'existait plus là. Et c'est pourquoi l'université m'a recommandé, j'ai obtenu une bourse pour aller faire ce diplôme-là en Belgique.
Et vous avez obtenu ce diplôme en quelle année?
J'ai obtenu ce diplôme ici, d'abord les gradués en sciences sociales à 67 et en Belgique à 71.
Quel est le souvenir qui vous a marqué pendant votre enfance, Monsieur Thomas Mambo?
Pendant mon enfance, ce qui m'a toujours marqué, c'est la vie de nos caves et nos parents, surtout la vie au village, puisqu'on allait souvent pendant les vacances voir les grands-parents au village. C'est ce qui m'a toujours frappé, intéressé. C'est pourquoi maintenant, après ma carrière, je compte aller m'installer au village et faire l'agriculture pendant ma pension.
Alors la vie au village est comment? Vous préférez la vie au village qu'en ville? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui fait la différence entre vivre au village et vivre en ville?
C'est question de choix, puisque personnellement, je m'intéresse à la nature. Je me suis intéressé
à l'agriculture. À la pêche,
oui,
à
l'agriculture et écologie, c'est ça le mot qui m'échappait. Mm-hmm. Je me suis intéressé à l'écologie et c'est pourquoi. Donc je voudrais rentrer dans la région et à la forêt pour défendre justement la nature et la forêt et vivre dans ce milieu-là, après ma carrière évidemment.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié, père de 6 enfants, mais pour le moment je suis veuf. Puisque ma femme m'a quitté il y a quelques années. J'ai élevé d'ailleurs pendant 16 ans tout seul mes enfants. Et maintenant, ils ont tous terminé les études. C'est pourquoi j'ai décidé, dès que je termine, de rentrer au pays et les intéresser au pays comme tous les autres aussi.
Je parie que vous avez déjà des petits-enfants. Vous êtes grand-père déjà.
Bien sûr, j'ai 4 petits-enfants.
Et donc, tous vos enfants, ils sont en Europe, vous dites?
Oui, pour le moment, tous sont là-bas. Ils commencent leur carrière. Il y a un aux États-Unis, il y a un autre au Grand-Duché de Luxembourg. Les 3 autres sont en Belgique.
Ok. 4 autres. Alors, Monsieur Thomas Mambo, vous étiez quel genre d'enfant en grandissant?
Ah, j'étais un enfant espiègle. À l'école, j'étais toujours au taquin pour les autres et tout ça, et pour les profs. Mais comme je m'intéressais beaucoup aux études, donc c'est toujours bien passé avec les collègues. J'étais toujours dans les groupes associatifs. J'étais scout, j'étais dans plusieurs organisations d'étudiants.
Vous dites que vous voulez rentrer au village ou dans votre village pour vous intéresser à l'écologie, protéger la forêt. Qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans l'écologie, à lutter pour la protection de la forêt?
Ça va coïncider puisque je suis fin terme, je vais aller à la pension et pendant ce temps-là, j'ai choisi de pouvoir m'engager dans cette voie-là puisqu'en Europe aussi, depuis que nous attendons le rapatriement, on n'est plus en fonction. Je me suis intéressé à d'autres, beaucoup d'associations, organisations humanitaires ou écologiques auxquelles j'ai participé à des activités. Et ce qui fait que je vais continuer et je vais rester en contact avec les amis en Europe et mener mes actions ici au Congo.
Le grand témoin.
Pour tous les auditeurs des radios Okapi qui viennent de nous rejoindre, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Thomas Mambo Elanga. Il est diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique. Ça fait plusieurs années qu'il travaille à l'ambassade de la RDC en Belgique. Parlons de votre parcours, de votre carrière professionnelle. Après vos études à l'université de Louvain-la-Neuve, vous êtes allé continuer en Belgique pour une spécialisation, j'imagine. Et c'est de là que vous avez eu votre premier emploi.
Okay, oui, mais après mon premier diplôme à l'administration des entreprises, comme on était en Belgique, il y avait plusieurs possibilités. J'étais toujours curieux d'apprendre. Et après, j'ai fait relations internationales, j'ai fait des études européennes. Et après avoir terminé à l'Université catholique de Louvain, je me suis intéressé à libre examen. Je suis allé à ILB, j'ai fait les diplômes spéciaux en droit et administration, en droit et sociologie du travail.
Vous avez combien de diplômes?
J'ai 3 ou 4 diplômes.
Ça fait pas trop, 3 ou 4 diplômes?
Non, c'est que c'est l'opportunité qu'on avait, qu'on a dû saisir pour pouvoir avoir ces qualifications-là.
Parlez-nous de votre premier emploi après vos études.
Après les études, étant en Belgique. Et avant d'aller même en Belgique, j'étais déjà enseignant, puisque quand j'ai terminé mes humanités, j'ai enseigné à l'école Institut Champagnat ici à Binzhausen pendant une année. Et après, quand j'ai terminé, je suis allé à Louvain-la-Neuve. Alors, dès là, arrivé en Belgique, j'ai commencé à faire un job à l'ambassade. Et après...
Quel genre de job?
Job au centre culturel, j'étais chargé de les tendances du centre culturel. Et après, comme j'étais déjà fonctionnaire, on m'a repris comme fonctionnaire au centre culturel où je m'occupais maintenant à ce moment-là des comptabilités, comme j'ai fait les études administrateur en administration des entreprises. Donc, je m'occupais dans un premier temps de ces services. Alors après, à l'ambassade, on changeait de fonctionnaire de fonction. J'étais aussi, à un moment donné, chef de protocole de l'ambassade pendant quelques années. J'étais aussi chef de l'administration et des finances des centres culturels. Donc, j'ai exercé plusieurs fonctions au sein de l'ambassade.
Jusqu'à devenir diplomate.
Oui, oui, en tant que diplomate, que j'ai exercé les fonctions justement de chef de finance et d'administration des centres culturels.
Et on peut dire que vous avez passé toute votre carrière professionnelle à l'ambassade.
Oui, j'ai fait.
Et en dehors de l'ambassade, vous n'avez pas travaillé ailleurs?
Ailleurs, non, non. Mais ici, avant au Congo, j'ai enseigné.
Oui, avant au Congo, vous avez enseigné, mais lorsque vous êtes parti en Europe, vous avez passé toute, vous avez fait toute votre carrière à l'ambassade de la RDC.
À l'ambassade du Congo.
Est-ce que ça n'était pas devenu fatigant pour vous de travailler pendant plusieurs années comme ça à l'ambassade?
Non, comme je vous ai dit, j'ai changé plusieurs services.
Oui, mais au sein de l'ambassade toujours.
Oui, au sein de l'ambassade, mais il y avait aussi des moments excitants dans la scène de l'ambassade quand on s'occupe, puisque le service culturel s'occupait des étudiants, de tous les boursiers, des chercheurs universitaires qu'on envoyait en formation. Alors avec eux, on organisait des colloques, des expositions et tout ça, donc c'était très intéressant.
Alors comment ça se passait pour être retenu à l'ambassade? Il y avait un test à passer?
Non, ça dépend. Vous avez à l'ambassade des engagés locaux qu'on engage sur place et ceux-là, on les engage suivant les critères locaux, suivant leur diplôme et leur qu'on leur donne des fonctions qu'il faut. Mais pour les autres, les diplomates qui viennent du Congo ou bien qui sont d'abord engagés locaux, qui deviennent diplomates. Alors, à ce qui me concerne, étant donné, comme je vous ai dit, j'étais déjà fonctionnaire de l'enseignement supérieur, donc j'étais fonctionnaire en travaillant à l'ambassade, et comme je m'occupais des services maintenant de l'ambassade, alors on donne aux fonctionnaires la couverture diplomatique. C'est pourquoi on était devenu diplomate. Donc il y avait diplomates qui venaient de l'enseignement supérieur, qui venaient de la sécurité, qui venaient de l'économie. Mais tous là, nous avons la couverture diplomatique pour travailler au sein de l'ambassade, pour servir notre pays.
Alors près de 25 ans, je dirais même pendant 25 ans, vous avez travaillé à l'ambassade. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre passage là-bas?
Oui, bien sûr, je suis très très content. Évidemment, on espérait que tout allait se terminer en beauté, mais malheureusement, le pays a connu pas mal de difficultés, les guerres multiples, ce qui fait que l'ambassade de Belgique et d'autres aussi était un peu abandonnée, négligée, ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes, nous-mêmes, on a subi pas mal de difficultés, des problèmes d'existence en Europe.
Parlons de l'ambassade de la RDC en Belgique. Les Congolais qui vivent en Belgique disent que ce n'est pas facile pour avoir un document à l'ambassade. Pourquoi ils n'ont pas cette facilité-là, alors que c'est leur représentation dans ce pays-là?
Oui et non. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'abord de nos compatriotes. Et aussi qu'il faut savoir qu'en Belgique, on estime environ actuellement 50 à 60 000 Congolais. Et parmi ceux-là, plus de la moitié sont devenus belges. Donc, ils vont à l'ambassade, ils demandent tous des papiers. Et ça dépend maintenant des statuts de chacun pour pouvoir avoir tel papier. Mais je pense, j'ai vécu, ceux qui sont là, il faut quand même un effort pour pouvoir servir leurs compatriotes.
Alors aujourd'hui, vous êtes diplomate, mais pas en fonction.
Oui,
vous
plus
attendez,
en fonction.
Vous n'êtes plus en fonction, vous attendez votre rapatriement
au pays.
Vous pensez que vous avez atteint l'âge pour ne plus continuer à travailler à l'ambassade, ou ce sont les conditions qui ne vous permettent plus de rester à l'ambassade de la RDC en Belgique? Les conditions de travail?
Non, le fait que moi j'ai passé plusieurs années, certains d'autres aussi, fait que nous on avait les travail technique. Étant de l'enseignement supérieur, nous étions là comme les techniciens. Notre service payait les bourses du gouvernement et le suivi de tous les autres boursiers du Congolais à l'extérieur. Donc, c'est ce qui faisait que, voilà, on n'était pas contraint aux obligations de nos collègues des affaires étrangères qui étaient politiques. Ils allaient pendant 4 ans et puis ils rentraient, les autres les remplaçaient. Et nous, comme on avait un problème technique, et souvent même notre département de l'enseignement supérieur, ils ne savaient pas que nous dépendions d'eux, puisqu'on était même jusqu'à 12 fonctionnaires de l'enseignement supérieur travaillant au sein de l'ambassade. Et ce qui fait qu'on restait plus longtemps que par rapport aux autres, puisque c'est des affaires étrangères. Les affaires étrangères les contrôlaient, les appelaient. Alors nous, pour revenir, nous devions justement être appelés, nommés par notre département de l'enseignement supérieur.
Vous quittez parce que les conditions ne sont plus les mêmes, voilà.
Oui, on était rappelés plusieurs fois. Mais le fait que le gouvernement ne parvenait pas à nous rapatrier. Donc, il y a plus de 300 familles qui attendent être rapatriées. Ici, je parle seulement des diplomates et leurs familles abandonnées en Belgique et dans le monde. Mais à côté de ça, il y a tous les fonctionnaires que le Congo avait envoyés à l'époque, dont nos services s'en occupaient, qui sont là-bas, les étudiants aussi, et que on a abandonné aussi. Si tous ces fonctionnaires, ils peuvent aussi réclamer leurs droits à pouvoir revenir. Évidemment, heureusement, il y a aussi le bon côté aussi, que la plupart de ces techniciens, surtout aux États-Unis, sont devenus des professeurs, et beaucoup ont travaillé dans des sociétés importantes. Donc, c'est un gain pour le Congo, avoir beaucoup ces techniciens qui œuvrent à l'extérieur.
Alors, parlons de la diplomatie en général ou des ambassades de la RDC dans différents pays étrangers. Le gouvernement congolais s'est dit déterminé à rendre la diplomatie congolaise plus agissante et faire en sorte que la RDC soit surtout présente dans les sièges des grandes organisations. C'est que le gouvernement a constaté aussi qu'il y avait une petite défaillance du côté de la diplomatie congolaise. On va écouter à ce sujet le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Au micro de Nadine Foula.
Il y a de l'étor dans les ambassades. Nous avons des arriérés de loyers, des arriérés de salaires. Nous sommes confrontés au problème du délabrement du patrimoine immobilier de la République à travers le monde et que cette année soit l'année du démarrage de la réhabilitation de la diplomatie congolaise et donc de l'assainissement de nos ambassades à travers le monde. Le coût, il est important. Et il est clair qu'il ne sera pas possible que ce coût soit rencontré sur un seul exercice budgétaire. Mais comme il est dit, même le chemin le plus long commence toujours par un premier pas. Le plus important, c'est que nous commencions et nous sommes convaincus que petit à petit, nous allons régler le problème. En le laissant sans nous en occuper, nous ne faisons qu'aggraver le problème.
Comment vous analysez cette démarche du gouvernement congolais? Vous pensez qu'ils ont raison de faire cette déclaration?
Ils ont tout à fait raison et nous applaudissons. Puis ce n'est pas seulement maintenant. En 2007, les autorités de l'époque ont dit la même chose. En 2009, la même chose. Et maintenant, on le répète. Cette fois-ci, nous pensons que ils ont mis les moyens puisqu'il y a quelques semaines, le gouvernement, avec certains ministères, se sont réunis pour décider de dégager les moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Puisqu'il y a le problème des rapatriements tout d'abord des anciens, puisqu'il y a pléthore depuis l'AFDER, on n'a fait qu'envoyer, on n'a jamais songé à rapatrier. Ce qui fait que tout ce monde se trouve là. Mais il y en a qui sont en fonction, d'autres ne sont pas en fonction comme nous.
Et comment ils vivent tous ces diplomates qui sont abandonnés à l'étranger?
Ça dépend des pays.
Prenons le cas de la Belgique.
Bon, à ce qui concerne la Belgique, d'ailleurs, à un moment donné, nous avons organisé notre association, justement, même au sein de l'ambassade, avec d'autres, on a initié ce qu'on appelait comité social. Donc, dont j'étais le président, comité social et personnel. On a écrit à nos autorités, on a essayé de s'organiser. Ça, c'est mal aussi que moi-même, j'ai découvert ce qu'on appelle la banque alimentaire. Puisque la banque alimentaire, ce sont des organismes qui soutiennent les gens qui n'ont rien. Ça, c'est mal là, quand nous sommes organisés, tous les membres du personnel que le gouvernement a demandé de cesser de travailler, d'attendre le patrimoine, mais après, on les a oubliés. Alors, ils étaient là avec tous ces problèmes. Heureusement, on s'est organisé au sein de cette structure-là pour pouvoir aider et soutenir nos amis. Donc, en Belgique, on tendait surtout... On a permis à ces diplomates, puisque normalement, ils ne peuvent pas, les épouses ne peuvent pas travailler, et les diplomates non plus. Mais quand ils n'ont plus ce statut-là, ils pouvaient travailler. C'est la possibilité qu'on les a donnée. Et en même temps aussi, on les a donné la possibilité de s'inscrire dans des communes, ce qui fait que ces gens jouissent certaines assistances publiques en attendant leur rapatriement. Ça, c'est en Belgique. Alors qu'en Allemagne, le gouvernement allemand insistait plutôt que ces gens-là se déclarent réfugiés politiques pour qu'ils puissent les aider. Alors, ça dépendait dans quel pays. Et ces gens sont devenus réfugiés sans malgré eux. C'est les circonstances qui ont fait qu'ils ont opté pour ces statuts-là.
Ça doit être dur pour ces diplomates, de diplomates et puis de passer des diplomates à réfugiés. Ça peut rendre fou hein, et malade même.
Bien sûr, bien sûr. On était représentants d'un grand pays. Et tout à coup, on devient assisté public. Et ça créait des problèmes. À ce moment-là, on ne pouvait plus contacter d'autres. Et ces gens s'est cachés chez eux. Ils ne sortaient plus. Puisqu'il arrivait aussi que beaucoup, même moi, pendant un certain temps, on était sans papier. Puisqu'on vous dit, vous quittez votre fonction, vous attendez le patrimoine, vous remettez vos documents, vous n'avez plus de papier. Et de l'autre côté, n'ayant plus de moyens, vous ne savez plus vous loger. Donc, on est devenu sans papier et sans domicile fixe. Et souvent, heureusement qu'il y avait les familles. Les familles étaient éclatées. On allait certains enfants chez les amis, chez les parents. Et c'était ces problèmes-là que les gens ont dû endurer. Et heureusement, toujours, on s'organise pour s'en sortir.
Vous vous organisez au sein de l'association que vous avez créée, l'association des diplomates abandonnés à l'étranger.
Oui. D'abord, cela c'est venu après, puisque là, c'est au niveau de tous les diplomates abandonnés. Mais avant, il y avait notre comité social de l'ambassade de Belgique, où nous sommes organisés pour commencer l'action pour soutenir nos collègues.
Et là, vous demandiez de l'aide à gauche, à droite, dans les institutions publiques en Belgique.
Mais c'est ça, justement. Je parlais de Banque Alimentaire. Ouais. Parce que Banque Alimentaire, c'est une structure qui aide les démunis. Donc, on allait là, les gens, notre organisation faisait la liste et on envoyait à cette structure-là et pouvait avoir de l'aide de ces structures-là.
Alors, Monsieur Thomas Mambo, on va souffler un peu. Il vous arrive d'écouter de la musique?
Bien sûr.
Quel genre de musique?
Oh, les salsa, pachanga, j'adore bien.
Et la musique congolaise, la rumba, vous n'aimez pas?
Si.
Ou c'est le fait de trop rester en Belgique qui vous pousse à aimer beaucoup plus la salsa, pachanga? Parce que salsa, pachanga, c'est pas très congolais. Congolais, c'est beaucoup plus la rumba. C'est vrai qu'il y a des musiciens qui ont fait, qui ont joué le pachanga, mais c'est pas très congolais, quoi.
Si, mais j'adore aussi la rumba. D'ailleurs, quand j'étais étudiant à l'Ovanium, j'ai créé le Afro Club. J'étais d'ailleurs.
C'était un groupe musical?
Non, c'était un centre de danse.
Uh-huh.
Donc, j'étais président de centre de danse. J'ai créé Afro Club et on apprenait, puisque beaucoup d'étudiants qui venaient surtout de l'intérieur ne savaient pas danser. Alors aussi à Kinshasa, moi, j'avais eu la chance de tomber sur le groupe de Atandelis et des Quinois, uh-huh, avec qui on écumait les boîtes ici à Kinshasa. Et à ce moment-là, à cette circonstance, j'ai pu apprendre différentes danses et je suis devenu professeur de danse et on enseignait alors à nos collègues à danser.
Quel genre de danse? Vous appreniez quel genre de danse?
À l'époque, on dansait tout. On dansait le cha-cha-cha, la rumba, bolero, tango, valse, les swing, les madison. À l'époque, on dansait. Je suis étonné qu'actuellement, à Kinshasa, les jeunes, il n'y a pas beaucoup de variétés. Dans le temps, Franco jouait le bolero, jouait le cha-cha-cha, mais maintenant, la plupart d'orchestres ne font plus de cette musique-là.
Mm-hmm.
C'est un peu dommage.
Et aujourd'hui, vous dansez toujours aussi bien que quand vous étiez à l'Ovanium?
Bien sûr, ça c'est ma gymnastique. Quand je vais me détendre un peu, je vais danser. Mais depuis que je suis rentré, étant donné circonstances actuelles, je suis surtout dans des courses, dans le bureau, les dossiers, etc.
Mais lorsque vous êtes en Belgique, vous passez pour vous détendre un peu, vous allez danser?
Oui, bien sûr, mais pas souvent, étant donné nos conditions actuelles, n'est pas facile.
Alors, s'il faudrait vous proposer une chanson, laquelle vous aimeriez?
Vous me donnez quelques titres, parce que d'emblée comme ça, je ne vois pas.
Ben, ça vaut de nous dire, hein. Moi, je ne sais pas quelle chanson vous aimeriez qu'on vous propose. Ça sera pour votre plaisir, ben aussi une fois ça.
Moi, j'adore bien la musique de des grands musiciens, anciens, qui jouent beaucoup de.
Congolais.
Oui, congolais.
Ancien musicien. Khaled Jeff, Franco, non?
Qui vit encore, un des vieux là, des anciens.
Pas Khaled Jeff, pas Franco, pas Wendo.
Qui vit encore, non. Qui vit encore.
Qui vit encore?
Ouais, un de.
Jano Bobenga, non?
Non, qui lance pas mal de danses, des clips là.
Qui vit encore?
Qui vit encore. Qui tient bien son groupe aussi.
Lutumba? C'est Maro? Non?
Pas lui. Oh, le nom m'échappe là.
Il est encore en vie.
Oui. Ben, qui a eu un problème en France, là, avec les groupes de filles qui a amené. Et...
Papa Wemba, non. Bozi, non.
Kofi.
Kofi.
Oui, j'adore bien la musique de Kofi.
Mais il n'est pas vieux, Kofi. Non, non, parce que vous avez parlé de vieux musiciens.
Non, je veux dire que c'est... Mais lui, il y a longtemps qu'il tient...
Qui fait la musique,
oui. Ouais, qui tient la musique.
Donc,
oui.
Vous aimez beaucoup la musique des Kofi.
Voilà. S'il y a un morceau de Kofi, il me ferait plaisir.
Ah, d'accord. Alors, on va demander à la technique de nous proposer une très belle musique, une très belle chanson de Kofi Olomide pour le plaisir de Thomas Mambo et Langa. Ça sera aussi une façon pour nous de vous dire au revoir parce que vous prenez votre avion ce soir pour Bruxelles.
Oui.
J'espère que cette chanson vous fera plaisir. De toute façon, on va vous proposer quand même la chanson de Kofi Olomide.
Merci beaucoup. Si vous me permettez, j'ajoute une petite chose.
Allez-y.
Oui. Je tenais beaucoup à parler de la diaspora congolaise à l'extérieur, puisque n'étant plus ambassade, j'ai fréquenté ces diasporas-là, congolaises en Belgique, aussi aux États-Unis, je suis allé en France et tout ça. Mais c'est cette diaspora-là, c'est toute la jeunesse. Quand on voyait ces jeunesses-là, ils ont le problème d'identité et de reconnaissance. Et ce qui fait qu'ils sont un peu, ils croient que le pays les abandonne, les oublie, comme on les accepte pas aux élections. Et c'est que je voudrais faire ici plaidoyer pour que, à 2016, qu'on puisse
Alors, l'émission n'est pas finie. On va parler de la diaspora dans la dernière partie de notre entretien.
Ah bon.
Alors, on va demander à la technique de nous proposer une très belle musique, une très belle chanson de Kofi Olomide pour le plaisir de Thomas Mambo.
Nzili sapoyo, mama yembisa kingai, tango nazala kiri, nanoko kula yi. Lisapoyo ya damo, yena iva, pa akibisa ngai na masano ya lamole. Ota ya mulema, na mulenge zali mabe, kemba kemba mwana, na yembisi yo. Ona komona yo, Kole koko zonga, tango timpo kwa kaka, sima ya masiwe. Ah mama, aye mama, lelo yo na kolie, na moni na miso. La pesi mama rezon, tembe peke na mayuwe. Yango na lubiye, vanako balataye, vanako anangayi, soko mouze mara. Elo kwe salinga boye, experience nga nazui, bambu lingo, yanga mwana mama. Alo baka lingi senga, ala paka na yawe, lelo aye kubu yanga, akeye na mbande. Anga nazoka mulema, nasomba liwa na kulea, suma pasiri aye, mama aye. Mama, yeah, mama. Lelo yo na kolie, na moni na miso. Na pesi mama rezon, kende keke na mayewe. Yango na lubie, kana kumbalate, kana kwanangai, siku mzimbaka. Elo que salinga boye, experience nga nazui, abulingo, yanga mwana mama. Alo baka lingi senga, ala paka na yawe, lelo aye kubu yanga, akeye na mbandai. Nanga nazoka mwema, nasomba liwa na kulinga, suma basi aye, mama aye. Mama aye, aye, mama, jogo ke karinta mwende. Uta evali ya mama, luta lisusu kitoro, na adamo wapi mwaya, na kanga mwendema, iso sifaye na ye, seye, 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 seye. Isuna lelo na zoto, ebi mi na moji pulele, ama sukola na magulu, la kisa nga yinzela, la apostolu na yo, zila nga nga nga, zila nga 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 nga, nga 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 Naluka lisusu kitoko Na adamo wapi mwanyo Na kanga mungu lema Iso sefai na yu Esuma lelo na nzoto Epini na moji kulele Mama sukola na mando Nakisanga inzela Na ya postolu na yo Zivila na 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 Zilanga na 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 Wana zumba ye 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 Azui mayewe Awa azuki mwema Asumili wana kulila Sumba zilanga ye
Témoin.
Okapi. Le grand témoin vous fait découvrir Thomas Mambo Elanga, diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique pendant plusieurs années. On va revenir sur l'association que vous avez mise en place, l'association des diplomates abandonnés à l'étranger. Ça regroupe tous les diplomates congolais de l'étranger. C'est-à-dire pas seulement Belgique, mais de tout...
Amérique, Asie.
Donc, comment dirais-je, les diplomates qui sont dans tous les pays étrangers. Cette association a quel objectif? C'est quoi le but de cette association?
L'objectif est clair. Donc, puisqu'on écrivait, on faisait un mémorandum à nos autorités, individuellement ou collectivement, on n'avait jamais de suite. C'est pourquoi on s'est adressé à un cabinet d'avocats pour pouvoir plaider notre cause au droit des salaires, au rapatriement, aux indemnités. Mm-hmm. C'est le but de notre association. On a commencé à 27 et les autres se sont ajoutés au fur et à mesure.
Elle existe depuis quand?
Depuis, officiellement, depuis 2004.
Oui, et depuis 2004 jusqu'à ces jours, est-ce qu'il y a des avancées positives par rapport à ce que vous poursuivez?
Oui, les avancées que le cabinet que nous avons sollicité, ce n'est pas pour créer des problèmes ou des polémiques. Tout ce qu'on voudrait, c'est pour faire attendre notre voix, trouver un compromis avec nos autorités pour résoudre ces problèmes épineux qui ternissent l'image du Congo à l'extérieur.
Puisque le pays aujourd'hui est confronté à plusieurs difficultés, il y a ce problème de l'Est, la guerre à l'Est. Est-ce que vous êtes prêt à attendre encore longtemps pour que vous soyez servi, pour que vous soyez écouté par les autorités?
Nous avons attendu déjà plus d'une décennie. Ce que nous souhaitons et ce qui nous réjouit, que le gouvernement actuel a décidé de partir petit à petit. Donc c'est ce que nous souhaitons, qu'il commence à rapatrier des petits groupes et au fur et à mesure, suivant les moyens qu'ils pourront disposer.
Mais cela n'a pas encore commencé.
N'a pas encore commencé, mais on l'a promis.
Et vous aviez commencé à parler déjà de la diaspora congolaise. On peut dire aussi que vous êtes de la diaspora, vous, Monsieur Thomas Mambo. Il y a eu où ce problème persiste encore. Il y a comme une certaine méfiance entre les Congolais qui vivent à l'étranger et le régime actuel de la RDC. Cela est dû à quoi, vous qui vivez à l'étranger, plus précisément en Belgique?
Il faut justement séparer. Il y a la diaspora comme telle, et dans la diaspora, elle est diverse. Donc, d'ailleurs, la majorité de nos diasporés est très instruite, puisque la plupart est partie des étudiants envoyés, des fonctionnaires envoyés. Il y a eu quelques réfugiés, mais la majorité sont des intellectuels. Alors, ces diasporas, ils se sont multipliés, mais ils semblent, surtout les problèmes, ils se semblent négligés par le Congo. C'est ça que nous disions, que le Congo doit pouvoir défendre la nation, la nationalité congolaise. Ce qui fait que dans les pays à droit du sol, aux États-Unis, en France, tous ceux qui naissent là, donc on pourrait dire d'office, ils perdent leur nationalité et le Congo ne fait rien. Donc nous perdons de plus en plus et tous nos compatriotes, comme en Belgique, qui deviennent belges et leurs enfants, tout ça, nous risquons de perdre tous ces mondes-là si le Congo ne prend pas initiative. Et c'est qu'avec certains, nous disons que le Congo doit défendre les Congolais, tout Congolais d'origine doit les considérer comme tel, qu'ils soient français, anglais, tout ça, mais les Congolais d'origine, le Congo doit les considérer comme tels, les soutenir et les encourager.
Et vous pensez que le Congo ne soutient pas ses enfants qui sont à l'étranger?
En fait, non, mais en principe, oui, nos ambassades sont là. Ces questions, justement, il y a cette malentendue-là que j'espère que les autorités vont pouvoir essayer d'écouter ces diasporas, voir quels sont leurs problèmes, essayer de porter des solutions.
Mais quand vous étiez, bon, vous l'êtes toujours à l'ambassade, est-ce que vous n'avez pas des séances ou des jours où les Congolais viennent exposer leurs problèmes à l'ambassadeur ou aux diplomates sur place là-bas?
Oui, il y avait plusieurs. Comme je vous ai dit aussi, qu'on a envoyé pas mal de fonctionnaires en formation. Ils avaient aussi leur structure. Et oui, on a organisé cela souvent, mais c'est là ce qui était dans tout près de l'ambassade, donc ça se passait bien. Mais c'est avec le temps, comme aussi les ambassades n'avaient plus de moyens, et même étaient abandonnées, comment ils pouvaient soutenir les autres si soi-même on est un peu stable. Nous souhaitons qu'avec le temps, que les choses vont changer.
Et donc, si je vous comprends bien, Monsieur Thomas Mambo, les Congolais de la diaspora, parlons de la Belgique où vous travaillez, sont abandonnés, c'est ça. Ils n'ont pas, c'est pas comme dans d'autres pays, en cas de problème, ils peuvent aller exposer leurs problèmes à l'ambassade ou au consulat. C'est pas ça le cas.
Non, ils vont. Maintenant, ils vont. Et l'ambassade fait ce qu'il peut pour les recevoir.
Mais on dit que vous ne leur facilitez pas aussi la tâche à l'ambassade.
Ben, ça dépend comment chacun prend sa façon, évidemment. Comme je vous ai dit, la diaspora est diverse, donc il y a les gens qui s'engagent politiquement. Évidemment, ceux-là, ils sont critiques, disent toutes sortes de choses par rapport aux autorités ou par rapport au gouvernement. Mais à part cela, vous avez d'autres qui ne sont pas politiques, mais qui sont congolais, qui veulent vivre leur congolité. Et ceux-là, donc, sont là, ils attendent de nos autorités, de nos ambassades, les services qu'ils doivent attendre.
Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien, Monsieur Thomas Mambo Elanga. Vous avez un dernier mot à tous ces auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, même à la diaspora congolaise, qui nous suit en Belgique, pas seulement en Belgique, partout dans le monde, grâce à notre site internet www.radiookapi.net, mais aussi aux autorités congolaises qui ont promis de commencer à rapatrier les diplomates qui ne sont plus en fonction aujourd'hui.
Je me réjouis de cette initiative du gouvernement et nous sommes dans notre organisation, d'ailleurs mes collègues que je vais revoir d'ici quelques temps, je vais les informer des informations que j'ai eues, puisque il y a une semaine, j'étais à un débat ici, justement, à Radio Okapi, avec le vice-ministre des Affaires étrangères, et qu'on a échangé, et je suis très content des engagements que le ministre a dit au nom du gouvernement pour résoudre le problème des diplomates et de notre communauté aussi à l'extérieur. Et c'est que je souhaite et nous souhaitons qu'à 2016, que le Congo puisse faire comme tous les autres pays, que nos citoyens puissent se considérer vraiment congolais, bien qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils puissent voter dans nos ambassades et pour notre pays.
Monsieur Thomas Mambo Elanga, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame. Très content d'être à Radio Okapi.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Thomas Mambo Elanga, diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique pendant plusieurs années. Merci à Alain Goy qui était à la technique, au micro, au Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.